BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert.
L'invité, je vous le disais, dans ce sommaire, Alexis Carkings, marché associé du cabinet de conseil Eight Advisory. Rebonjour. Il reste 100 jours pour une campagne étrange de l'aveu même de Joe Biden. Le démocrate, un temps challenger, désormais favori. Il distance de 8 points en moyenne selon les récents sondages. Donald Trump, on est vraiment dans une moyenne. Et puis, c'est à la louche car il faudrait se pencher sur les états clés, sur les grands électeurs. C'est le système américain. Le coronavirus a complètement, Alexis, rebattu les cartes. Donald Trump rêvait d'une économie solide. En fait, c'était le meilleur argument, la meilleure arme. Il reste tout à faire après une gestion de crise chaotique, mais il y a eu un revirement dans cette dernière ligne droite.
Oui, et c'est intéressant parce qu'on se pose la question de savoir si Trump peut encore gagner l'élection. Est-ce qu'il va changer de positionnement ? On se rappelle, en 2016, il est élu contre Hillary Clinton sur une promesse. Je suis anti-establishment, je suis contre ces démocrates traditionnels, je vais apporter l'ordre, je vais apporter le respect de la loi, je vais redresser l'économie américaine et au fond, je vais faire en sorte que ce pays marche à nouveau. Or, on voit, la crise de coronavirus, vous l'avez évoqué, a complètement changé la donne. En quelques mois, on a un président qui se caractérise par une gestion qui est qualifiée de chaotique. Mm-hmm. Et on le voit, il y a la moitié des cas dans le monde aujourd'hui recensés qui sont aux États-Unis, avec en plus une économie qui, de fait, a beaucoup déraillé. On a aujourd'hui 11% de chômeurs. 16 millions d'Américains sont aujourd'hui au chômage. Donc, tous les arguments qu'il avait imaginés pour, au fond, présenter un bilan. Le bonhomme, on le connaît, il est extrêmement critiqué, il est extrêmement critiquable sans doute aussi, mais au moins, il pouvait se prévaloir d'un bon bilan économique.
S'asseoir sur un bilan.
Aujourd'hui, on le voit avec les manifestations, il y a beaucoup de villes où il y a encore des émeutes, on voit une économie qui déraille, on voit une gestion de la crise du Covid qui est totalement chaotique. Il est certain que ça se voit dans les sondages, on voit la différence maintenant est importante. Mm-hmm. On va rester prudent.
On n'est pas à l'abri d'un nouveau revirement.
On n'est pas à l'abri d'un nouveau revirement. Et c'est vrai que son positionnement sur les masques, où depuis une semaine, il a, en tout cas sur ce sujet-là, il a changé son discours, peut l'interpréter aussi comme la reconnaissance d'erreurs qui ont pu être faites et puis la volonté peut-être de donner un statut un peu plus présidentiable, même s'il reste Donald Trump.
Oui, c'est ça, parce que finalement, l'histoire du masque est assez symptomatique. C'est l'illustration même de cette évolution et de ce revirement. Au départ, pas besoin de l'utiliser, on ne s'en sert pas, surtout pas lui. Et finalement, c'est devenu même un geste patriotique. Il y a eu toute une rhétorique qui a évolué.
Alors, cette rhétorique, elle est caractéristique de Trump, puisque tout est ramené à Amérique, Amérique, Amérique. Vous connaissez bien sûr son slogan, Make America Great Again. Là, maintenant, ça s'appelle Keep America Great. Donc, c'est toujours ramené ça, des éléments patriotiques. La réalité, c'est que pour le compte, beaucoup d'Américains ne sont pas dupes. Ils se rappellent qu'en quelques mois, on a vu un président qui, au début, disait cette crise, d'abord, bon, c'est toujours le virus chinois, mais cette crise vient de Chine, ça ne nous touchera pas, c'est maintenant les Européens, nous ne sommes pas concernés. C'est un canular des démocrates. Le masque, oulala, il faut le prendre avec beaucoup de distance. Il avait même lui-même en filigrane critiqué tous ses conseillers sur la santé à un moment ou un autre, fait quelques conférences de presse où il sortait complètement de la route. Bref, il y a eu vraiment une gestion objectivement assez chaotique. Aujourd'hui, ça se voit dans les sondages. Vous avez cité un sondage, alors c'est au niveau national et vous avez raison de le rappeler, le national ne veut rien dire aux États-Unis. C'est une tendance. Objectivement, aujourd'hui, Biden a une très grande avance sur Trump, beaucoup plus que l'avance de Clinton à la même époque, 100 jours avant l'élection 2016. Clinton était un petit peu en avance, mais pas du même ordre de grandeur. Là, il a vraiment, vraiment beaucoup d'avance, Biden. C'est rattrapable. Oui, probablement. On peut y revenir, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on a en face de Trump un candidat qui a 78 ans. Il aura 78 ans en novembre.
Oui, c'est ça. C'est un duel de septuagénaire aussi. Et ça joue.
Il n'y a pas d'enthousiasme autour de la candidature de Biden, qui était presque un candidat par défaut, qui a fait une primaire très mal commencée, qui a eu quelques moments vraiment assez forts pendant au début du mois de mars et qui l'ont complètement remis en scène. Donc, il a gagné cette primaire, il est le candidat, il n'y a aucun enthousiasme, très concrètement. Il aura donc 78 ans le 20 novembre. Mm-hmm. Vous voyez que c'est effectivement, ça serait le président le plus âgé de l'histoire américaine qui rentrera à la Maison-Blanche et le gagner. Et de toute façon, ça va se jouer dans quelques États. Et c'est ça peut-être l'élément
le plus important. Les fameux États clés dans cette élection.
Les fameux États clés. Alors là, quand on regarde quand même au niveau des sondages, c'est vrai que ce n'est pas très favorable non plus pour Trump.
Même dans des États où en 2016, finalement, ça jouait totalement en la faveur de Donald Trump.
Il y a des États comme aujourd'hui, comme la Floride, comme l'Arizona.
Mais particulièrement touchés par le Covid.
Très touchés par le Covid, qui sont deux États qui ont Alors la Floride, c'est plutôt mitigé, mais l'Arizona est un État qui vote républicain depuis très longtemps. Aujourd'hui, Biden est en tête, et puis nettement en tête dans les derniers sondages en Arizona. Les trois États qui ont fait basculer l'élection en 2016, ceux qui ont donné le quota de grands électeurs pour que Trump rentre à la Maison-Blanche. Alors que, rappelez-vous, il a perdu l'élection en termes de voix. Il avait 63 millions de voix, Clinton en avait 66. Mais il a gagné trois États qui ont fait basculer l'élection et le collège des grands électeurs. La Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, trois États du Middle West où il avait gagné au total cumulé 78 000 voix en cumulé sur ces trois États. Donc c'est-à-dire rien pour un pays qui fait 325 millions d'habitants. Aujourd'hui, ces trois États donnent Biden très très en avance. Donc quand on regarde la carte des différents États, que ce soit au niveau national, mais encore plus important au niveau des États, c'est vrai que la donne est compliquée pour Trump. Maintenant, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il faut savoir que Biden, on le surnomme Monsieur Gaffe. Il a fait gaffe. Il est fatigué. C'est un homme qui a l'âge de ses artères. Et donc,
oui, et puis ça, pour le moment, ça rassemble un vote contre Donald Trump plutôt qu'un vote véritablement, potentiellement une candidature d'adhésion.
Et Trump l'a très bien compris, puisqu'il commence maintenant à faire peur à ses électeurs, les électeurs qu'il a eu en 2016, qui avaient un peu voté pour lui, encore une fois, contre Clinton. Et il leur dit, mais attention, qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir Biden, mais Biden et son équipe qu'il appelle le radical left, la gauche radicale. Donc il clive à nouveau en disant, attention, si vous élisez les démocrates, vous aurez la gauche socialiste, la gauche radicale, alors que Biden, historiquement, était plutôt sur un positionnement assez centriste. On se souvient, c'était le vice-président d'Obama. Donc voilà, un positionnement plutôt au milieu de
l'échiquier. De toute façon, cliver, c'est la meilleure arme et c'est le point de bataille, bien évidemment, de Donald Trump. Il y a aussi cette capacité, peut-être, c'est dans le revirement de cette capacité de faire un semblant de mea culpa, mais de prévenir, de mettre en garde. Quand il dit la situation va empirer avant de s'améliorer, là il anticipe aussi une économie peut-être qui sortirait plus forte. Ensuite, un nouveau plan de relance est attendu. Là, le quoi qu'il en coûte à l'échelle américaine, les 1000 milliards de dollars sur la table. Et puis Larry Kudlow qui ce week-end a précisé qu'on attendait, malgré une reprise poussive, 20%, un taux de croissance de 20% pour les troisième et les quatrième trimestres, tout de même.
Alors voilà, donc Larry Kudlow, qui est le conseiller économique de Trump, qui a fait une intervention en disant, regardez, dans tous les États où la crise de Covid s'arrête, ou en tout cas est ralentie, on voit une économie qui rebondit très fortement. Il va lui rester que ça. C'est-à-dire que, très concrètement, si on se remet il y a 6 mois, Trump avait au moins l'argument de dire le chômage n'a jamais été aussi bas historiquement, même s'il n'en est que partiellement responsable, au moins il avait ça. Là, il n'a plus ça. Donc, qu'est-ce qu'il peut finalement retenir comme argument? De dire, vous allez voir, là, il y a eu un choc exogène qui s'appelle la crise de Covid. Bien sûr, on ne s'excuse pas, on ne présente jamais, on ne fera rien pour essayer de reconnaître ses erreurs. Mais par contre, Trump, aujourd'hui, se positionne sur cette logique de dire, attention, l'économie va repartir. Dès que la crise de Covid sera terminée, dès que ce choc exogène sera fini, ça repartira. Et regardez, avant ce choc, moi, j'ai réussi à avoir les marchés financiers au plus haut et au chômage au plus bas. Faites-moi confiance, ça doit redémarrer derrière.
Un argument important aussi, parce que les marchés regardent très attentivement le positionnement de Joe Biden et surtout ce démocrate qui pourrait arriver et déstabiliser la tendance, notamment à Wall Street. On s'inquiète d'une possible hausse d'impôts sur les sociétés. Et finalement, les marchés aussi n'achètent pas tellement la perspective d'une victoire de Biden.
Non, c'est vrai que pour le compte, les marchés financiers ont été très favorables sous l'ère Trump. Maintenant, il y a aussi une réalité, c'est que l'économie américaine est une économie qui est au ralenti. Toutes les failles de l'économie américaine qui étaient finalement préexistantes à la crise de Covid ressortent. Le surendettement des entreprises, un système de santé qui ne fonctionne toujours pas, des inégalités qui sont à un niveau record. Il y a un certain nombre de facteurs qui préexistaient qui sont toujours là. Et donc, il y aura une partie des électeurs, vous avez un certain nombre de grands patrons, y compris dans les fameux GAFA et dans la Silicon Valley, qui sont plutôt pro-démocrates en disant il faut qu'aujourd'hui l'Amérique réinvestisse dans l'éducation, dans la santé et dans les infrastructures. Des promesses qui avaient été faites par Trump, qui celles-là, pour le compte, n'ont pas du tout été tenues. Et donc aujourd'hui, il y a une attente par rapport à ça. On voit aussi l'importance du ticket. On ne connaît pas encore la personne qui serait vice-présidente. On sait déjà que c'est une femme.
Oui, hein,
puisque
exactement.
Là, il a pris l'engagement. Et puis, il y a vraiment, de toute façon, de très, très, très bonnes candidates. On ne sait pas encore. Ça devrait être annoncé le week-end prochain. Il y a une favorite qui est Kamala Harris, mais elle n'est que favorite, il y a au moins 15 noms qui circulent. Donc là aussi, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais Kamala Harris, 56 ans, procureur de Californie, un État qui de toute façon votera démocrate, mais qui a une image de quelqu'un de très sérieux, de très rigoureux, finalement un positionnement assez centriste. Et on voit l'importance du ticket justement pour finalement rassurer les électeurs. et de dire peut-être assez centristes qui avaient pu être tentés par Trump en 2016, revenez vers nous parce
revenir
que
dans le
voilà, on va être raisonnable. Bien sûr qu'il faut investir, bien sûr que on a vu quand même hein, le mouvement Black Lives Matter est très très important aux États-Unis. On a vu avec
le meurtre de George Floyd,
il y a des tensions raciales qui sont là. Et c'est vrai que c'est quand même aussi un avantage de Biden parce que Joe Biden est quelqu'un qui est très apprécié de la communauté afro-américaine. Il doit encore séduire l'électorat latino, mais voilà, il a un certain nombre de qualités hein, qui peuvent lui permettre de l'emporter.
Il est à l'heure actuelle pas représentatif de la loi et l'ordre, et là aussi où il y a un réel débat dessus. Je voudrais qu'on termine avec, évidemment, il faut, pour relancer une campagne par ailleurs, eh bien, un ennemi commun. Il a été choisi, il a été assez logique. La Chine, encore, et ça ne change pas dans la rhétorique et même dans les tensions diplomatiques, il faut torpiller la Chine. Pourquoi ? Pour parler à sa base, une base qui est encore réceptive à ce genre d'argument.
Plus vous faites peur, et vous pouvez faire peur sur vos opposants politiques ou sur l'État qui est désigné comme un ennemi, qui est en l'occurrence effectivement la Chine, plus vous avez une chance de capitaliser, de remobiliser votre électorat. Or, la seule chance aujourd'hui pour Trump de remonter ce retard qu'il a dans les sondages, c'est d'arriver à mobiliser un électorat. Bien sûr, sa base votera toujours pour lui, mais en revanche, cet électorat modéré, centriste,
mouvant,
plutôt pro-business, qui se dit, bon, il faut quand même faire attention, ne soyons pas naïfs, ne soyons pas dupes. Bien que les accomplissements de Trump avec la Chine ne soient pas vraiment très très importants, en tout cas il a cette image de je défends la patrie, je défends la nation, aujourd'hui nous avons un ennemi, et d'ailleurs il continue, il le dit, c'est pas seulement la fermeture d'un consulat ou sur les problèmes de télécom, c'est aussi le virus chinois, il continue d'appeler le Covid, le coronavirus,
Chine la plus grande menace pour les États-Unis. Donc on va rester dans cette rhétorique et dans cette bataille diplomatique et véritablement idéologique à côté du terrain économique, bien évidemment, sur le marché intérieur. Merci Alexis Karklins Marché. Je rappelle que vous êtes associé du cabinet de conseil Aid Advisory. Merci d'avoir été dans l'orage. On se retrouve dans un instant avec le PDG d'Edenred. Tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert.
Dans l'orage, je reçois Bertrand Dumazy, président directeur général d'Edenred. Bonjour.
Bonjour Audrey.
Plateforme de services et de paiement. Et évidemment, on a suivi l'impact de la crise sur les résultats du premier semestre publié ce matin, on va le voir avec vous. Au gré des mesures de confinement, du recours au télétravail, au chômage partiel, votre cœur de métier, ce sont les salariés dans l'entreprise. Donc, on imagine qu'il y a eu un impact certain. Et quel est-il sur les résultats de ce semestre ?
Oui, alors en fait, le semestre est marqué par une baisse tout à fait modeste de notre chiffre d'affaires, puisqu'on est aux alentours de moins 4%.
Oui, sur ces
donc c'est une
mois,
grande
oui,
résilience. Mais derrière cette apparente tranquillité, on a eu trois phases. La première phase, c'est on a démarré l'année dans la même veine qu'on avait fini l'année 2019, c'est-à-dire en croissance à deux chiffres. Mm-hmm. Et puis, on a été pris par le Covid à compter de mi-mars, sachant qu'Edenred est présent dans 45 pays. Et donc, on l'a vu déferler de l'Est jusqu'à l'Ouest.
Vous avez suivi les mesures de confinement.
Exactement.
Avec.
Puisqu'on est de Singapour. Mm-hmm. À Santiago du Chili. Et donc, on a vu en fait ces mesures de confinement s'abattre tel un jeu de domino de l'Est à l'Ouest. Et donc, on a connu un deuxième trimestre avec deux sous-phases. Une première qui était avril-mai où on a fait moins 18, moins 19%. Et donc là, c'est dû à les conséquences en fait des mesures de confinement. Donc, des collaborateurs qui soit sont en chômage partiel, soit ne peuvent pas dépenser l'argent qu'ils ont reçu puisque les commerces sont fermés. Mais on voit également un très grand rebond sur le mois de juin, puisqu'au mois de juin, on a divisé par deux l'étendue de la décroissance de avril-mai à moins 19, et au mois de juin, on est passé à moins 9.
Donc là, on parlera pas de ce fameux effet de rattrapage, puisque quand c'est perdu, de toute façon, ces mois sont perdus dans l'activité, mais il y a véritablement une reprise aussi rapide que on a levé le couvercle dans la plupart des pays, donc de la même manière, vous avez vu cette évolution, et là, il y a une reprise un vrai rebond aussi rapide que le soufflet était retombé avec les mesures de confinement ?
Alors, il y a un vrai rebond rapide, sachant qu'il y a un peu de rattrapage quand même, c'est-à-dire que quand vous avez la chance d'avoir une carte ticket restaurant et que vous avez reçu votre argent et que cet argent n'a pas été dépensé,
vous pouvez
là,
consommer
il y a un rebond.
Plus, vous avez cette
Exactement.
Épargne finalement
Exactement.
Où vous pouvez
Exactement.
Aller consommer.
D'ailleurs, le gouvernement a annoncé une très bonne mesure qui est la levée du passage de 19 euros à 38 euros de dépenses par jour, et sachez que c'est une mesure qui fonctionne. puisque depuis que ça a été mis en place en France, le ticket moyen est passé de 14 euros à 21 euros, c'est-à-dire que chaque Français utilisateur de ticket restaurant dépense 50% de plus chaque fois qu'il va au
donc,
restaurant.
Donc est allé soutenir, les Français sont allés soutenir les restaurants, il y a eu un véritable effet. Donc vous faites partie quoi, d'un outil de relance maintenant ?
On est, j'espère, un outil de relance. Donc là on parle de la restauration, mais on pourrait parler du tourisme. Par exemple en Grèce, le gouvernement a décidé de lancer un chèque vacances qui n'existait pas en Grèce, puisque la Grèce va être durement impactée par l'incapacité des touristes mondiaux à venir en Grèce, et donc une incitation pour les Grecs à aller dépenser de l'argent dans le tourisme grec. Et en fait ça, c'est la raison d'être d'EdenRed, puisqu'on est le champion du monde de l'argent fléché. Vous savez d'où vient l'argent et où va l'argent, et désormais en Grèce on va gérer ce programme de chèque vacances. On donne de l'argent aux Grecs pour prendre leurs vacances en Grèce, mais cet argent ne peut être dépensé qu'en Grèce et dans le secteur du
donc
tourisme.
Donc c'est une injection directe dans l'économie grecque. Résistance donc du modèle qui repart, hein, et puis c'est un accomplissement de ce modèle au rythme de la reprise, aidé par une digitalisation qui avait été largement engagée, et donc c'est aussi votre cœur de métier. Est-ce que cette digitalisation, encore ce qui restait à faire, est-ce que la crise a été un accélérateur ?
La crise a été un accélérateur formidable. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez l'Europe, et en Europe, sur le premier semestre 2020, le taux de digitalisation de nos solutions a augmenté de 9 points. Ça veut dire qu'en un semestre, on a fait plus qu'en 3 ans.
D'accord.
C'est donc un accélérateur formidable.
Et sur les tendances à venir, sur les perspectives désormais, qu'est-ce qui a été revu ? Est-ce qu'on naît sur les mêmes lancées ? Il y avait eu le consensus, il y avait eu vos premières perspectives, vos premières projections. Est-ce qu'on reste sur cette lignée, justement en touchant du doigt cette reprise ?
Alors, en fait, les tendances de fond qui se sont accélérées du fait de la crise du Covid sont très favorables à EdenRed. La première tendance de fond, c'est qu'on est rentré dans un monde qui est de plus en plus connecté. Et là, je vous ai cité 9 points et ça va continuer. Je pense que la deuxième tendance de fond, c'est qu'il y aura moins de présence salariée sur le lieu de travail. Et ça, c'est très positif pour une activité comme la nôtre qui, sur un produit qui est le ticket restaurant, et je rappelle qu'on en a 250 différents, mais sur le ticket restaurant, c'est une cantine virtuelle. Je vais quand je veux, où je veux, pour m'alimenter. Et donc, si je n'ai plus accès au lieu de travail, je suis capable de faire ça dans mon quartier ou dans l'endroit où je suis pour travailler. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple historique pour nous. On vient de signer un contrat avec Spotify aux États-Unis. Donc, vous prenez une entreprise florissante en grand développement aux États-Unis et qui dit, puisque mes collaborateurs ne peuvent plus venir sur site ou viendront moins sur site, et puisque sur site je leur offrais à déjeuner puisque les frigos sont à disposition des collaborateurs, eh bien il faut que je puisse redonner d'une autre manière. Je ne vais pas leur envoyer des paniers repas, mais je vais leur envoyer une carte sur laquelle il y a de l'argent filtré qui ne pourra être utilisé que pour acheter de l'alimentation. Et ça, c'est à nouveau le cœur de métier d'EdenRed. Jamais on a réussi à pénétrer le marché nord-américain avec ces solutions d'argent fléché. Désormais, on a signé Spotify, qui est un des emblèmes de la nouvelle économie aux États-Unis.
Et qui ouvre une porte.
Qui ouvre une porte absolument merveilleuse. Donc, moins de présence salariée nous fait ouvrir de nouveaux marchés géographiques ou par ligne de produits. Ensuite, je crois qu'il y a une troisième tendance de fond, c'est que le Covid nous a fait réaliser la fragilité humaine, c'est-à-dire seul et même collectivement, nous sommes en réalité fragiles. Et cette fragilité entraîne probablement une volonté d'avoir des comportements un peu plus responsables. Plus vous utilisez des produits EdenRed, plus vous contribuez à des comportements responsables. Si vous utilisez aux États-Unis commuter benefits, vous dites je renonce à l'utilisation de ma voiture pour utiliser des transports en commun et je reçois de l'argent fléché pour faire cela. Si vous utilisez l'éco-chèque, qui est un produit EdenRed en Belgique, qui peut aller jusqu'à 250 euros par an, chaque euro dépensé via l'éco-chèque, c'est 1 kg de CO2 économisé. Et donc on voit, via la volonté d'avoir des comportements plus responsables, une utilisation plus massive des programmes qu'on a pu développer aux quatre coins du monde.
Le positionnement, justement, et cette tendance éco-responsable, c'est notamment ce nouveau ticket mobilité pour un développement, c'est ça, dès le mois de septembre, si je ne me trompe.
Absolument.
Pas. C'est né de la loi mobilité. Vous n'êtes pas le seul acteur,
non.
Justement. Bon, c'est un peu comme les tickets restaurants. On a à la fois Sodexo, on a aussi des start-up, mais là aussi, il y a cette bataille que se livre l'ensemble des acteurs. Alors, Là, cette fois, il y a eu l'outil de relance, il y a l'outil de transition écologique. Ce seront 400 euros que pourront verser les entreprises directement pour participer à des frais auprès des acteurs du covoiturage, par exemple, ou même des frais d'essence.
Absolument. C'est donc Bruno Le Maire a d'ailleurs annoncé que la relance en France est une relance verte, ce qui est une très bonne chose. Ce ticket mobilité participe de cette volonté de relance de l'économie, mais en la verdissant. Donc, le ticket mobilité, comme vous l'avez dit, c'est 400 euros par an et par salarié. L'employeur a la possibilité de verser tout ou partie de ce montant. Ce montant est défiscalisé pour les deux parties, l'employeur et l'employé, et ne peut être utilisé que pour des accès à la mobilité, notamment la mobilité douce jusqu'à 200 euros. Mobilité douce, ça veut dire l'interconnexion entre un vélo, un autre moyen que vous pourrez envisager, des transports en commun, et donc probablement que cet outil va participer au verdissement de l'économie française.
Mais là, il y a, en termes de gestion pour Edenred, il y a pléthore d'acteurs en termes de mobilité au sein des villes. Il y a pléthore d'acteurs. Comment on fait pour avoir après une offre nationale qui va... qui va répondre à tous les besoins et toutes les attentes locales.
Notre ambition d'abord est une offre internationale, c'est-à-dire que la mobilité, on la traite déjà dans plein d'autres pays. C'est-à-dire, je vous ai parlé de commuter benefits aux États-Unis, je pourrais vous parler de ce qu'on fait en Angleterre ou en Belgique. Donc sachez que la France s'y met, c'est très bien, mais on a déjà travaillé sur ces problématiques un peu partout dans le monde, premièrement. Deuxièmement, nous, en fait, on est un intégrateur, c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est posé par la loi, on prend ce cadre et on le met en musique. C'est-à-dire qu'on connecte 50 millions d'utilisateurs qu'on a dans le monde avec aujourd'hui 1,5 million de marchands. Là, on va rajouter des marchands de mobilité, donc les loueurs de vélos, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est vous prenez votre téléphone portable, vous allez sur l'application My Edenred, au lieu d'aller dans la section ticket restaurant,
vous
irez ticket mobilité, et vous dites, aujourd'hui, je suis censé aller de ici les Moulineaux à Lille, je vais commencer par le tramway, puis le métro, puis le train, puis à Lille, j'ai besoin d'un vélo parce que mon rendez-vous est à Marc-en-Barœul.
Ensemble du trajet. Et pourquoi pas des VTC hybrides ou des taxis électriques à terme ?
Absolument. C'est tout l'enjeu de l'argent fléché, c'est que vous pouvez choisir où cet argent peut être dépensé. Et donc, en fonction de ce dont on a besoin, et ça dépend des pays, puis ça dépend aussi des utilisateurs, vous pouvez ouvrir ou fermer des canaux.
Donc ce sera à partir du mois de septembre, il y aura une période d'évaluation, pour l'heure c'est facultatif pour les entreprises, donc on verra cet accomplissement. Merci Bertrand Dumazy, je rappelle que vous êtes président directeur général d'Edenred. À suivre l'essentiel de l'actualité dans le RH. Merci beaucoup.